Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue, c'est l'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Stephen Brun, membre de la Dream Team RMC Sport, va m'accompagner cette semaine. Salut Stephen.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Comment ça va? T'es bronzé, t'es beau. Hein.
Je suis bronzé, oui, je suis beau, je sais pas. Mais
t'as
je suis
un bronzage néerlandais.
Alors c'est un bronzage qui met une dizaine de jours à arriver. Avant, on passe par la biafine avant d'avoir ce teint allé.
Des coups de soleil, voilà.
Exactement.
Tu connais ça. Ravi de te retrouver, Stephen. Tu vas être avec nous pendant 2 heures ce soir. Du foot au programme jusqu'à 19h à la une. Le 3e match de poule pour l'équipe de France féminine à l'Euro ce soir contre l'Islande. Coup d'envoi 21h. On rappelle que les Françaises sont qualifiées. Elles sont assurées de terminer première de leur groupe. Et elles connaissent même leur adversaire pour l'écart, les Pays-Bas. On va parler de tout ça avec Anthony Reich. À 18h15, la tournée estivale se poursuit pour le PSG, fin des actions promotionnelles. Les entraînements ont débuté, Arthur Perrault viendra nous raconter. À 18h30, le Mercato Show, les infos RMC Sport concernant le recrutement de l'OM. Et puis à 18h45, ça y est, Monaco connaît son adversaire pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce sera le PSV Eindhoven. C'est parti pour l'Intégral Sport.
Le coup d'envoi est imminent pour ce premier match de l'Euro 2022 en Angleterre pour l'équipe de France.
Et le but ! L'ouverture du score de Gaillot !
L'équipe de France qui réalise ce qu'il faut pour s'imposer 5-1.
La tête et le but ! La tête et le but de Khadidia Toutiali !
Elle boite très très fortement, elle a du mal à poser le pied droit, Marie-Antoinette Katoto, elle souffre, elle grimace là.
Et il va y avoir changement.
C'est terminé ! L'équipe de France s'est imposé face à la Belgique. Mon Dieu que ce fut dur dans la souffrance.
RMC
Intégral Sport.
C'est la dernière sortie avant le début des choses sérieuses. L'équipe de France affronte donc l'Islande ce soir dans la touffeur de Rotherham. 3e match de poule à l'Euro féminin. La première place, on l'a dit, est assurée. L'adversaire pour l'écart est connu, les Pays-Bas. L'objectif, c'est donc de faire tourner l'effectif et donner confiance à celles qui ont eu un rôle évidemment mineur, mais qui auront peut-être un rôle à jouer sur les prochains matchs, notamment Ule Matassar. On va en parler, l'attaquante du Paris FC qui supplée pour l'instant la star Marie-Antoinette Katoto. Je vous rappelle, elle s'est blessée, elle est forfait pour le reste de la compétition. Anthony Reich est en Angleterre. Salut Anthony.
Salut Benoît, salut Stephen.
Salut Anto.
Bon, première info, même conditions météo qu'en France. Hein. Il fait très chaud au Royaume-Uni.
Oh oui.
Hein.
Oh oui, il fait excessivement chaud aujourd'hui. Là, au moment où je te parle, on a de la chance avec Jeanne Roussillier parce qu'on est à l'ombre, mais il fait 37 degrés au New York Stadium. Et au niveau du coup d'envoi à 20h, hors local 21h pour vous, ils annoncent 33 degrés. Oh. Autant dire que ça sera un paramètre très très important ce soir dans la physionomie de cette rencontre. Il y aura des pauses fraîcheurs qui seront évidemment prévues et organisées par le corps arbitral. Du côté du staff de l'équipe de France, on s'est aussi préparé à cette chaleur étouffante, parce que c'est vraiment très très étouffant aujourd'hui ici à Rotherham. Il devrait y avoir notamment tout ce qui est glacière, serviette fraîche pour rafraîchir évidemment au maximum les joueuses, parce qu'il pourrait y avoir des petits coups de moins bien avec cette énorme chaleur ce soir.
Est-ce que du coup il n'y a pas la tentation de changer les 11 joueuses carrément et les laisser au frigo justement, Anthony?
Ah, c'est pas le genre de la maison. Ah ouais. C'est pas le genre de la maison. Corinne Diacre veut quand même garder sa colonne vertébrale. Il va y avoir, il devrait y avoir évidemment un peu de changement. 3-4 postes, 3-4 joueuses qui devraient passer dans la rotation sur ce troisième match. Parce qu'on le rappelle, évidemment, les joueuses de l'équipe de France sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Elles ont validé face à la Belgique la première place du groupe. Donc elles savent déjà qu'elles joueront les Pays-Bas en quart. On devrait voir effectivement quelques remplacements. Mais sans trop modifier le schéma tactique, Corinne Diacre nous l'a dit hier, elle ne veut pas bouger, non plus révolutionner tout ce qui a été fait, le travail de ces derniers mois, parce que notamment Marie-Antoinette Katoto a déclaré forfait, qu'elle n'est plus l'attaquante de pointe et le fer de lance de l'attaque tricolore.
Stephen, tu comprends ça, ce petit turnover, pour rentrer dans le détail dans un instant avec Anthony, mais le fait qu'on ne change pas toutes les joueuses?
Moi, je le comprends.
Même si t'es premier de groupe, chercher.
Oui, mais il y a ce fait et cette blessure de Katoto qui fait que aujourd'hui, Corinne Diacre, elle a envie d'utiliser ce match contre l'Islande pour se préparer contre les Pays-Bas aussi, trouver des automatismes avec éventuellement Ule Matassar qui va démarrer en pointe, garder cette dynamique de victoire aussi, parce que c'est jamais bon d'avoir gagné les deux premiers matchs et puis de jouer le troisième en dilettante. Tu peux avoir un aspect confiance si jamais ça se passe mal contre l'Islande, qui on rappelle joue leur qualification, défaite interdite pour l'Islande. Si ça se passe mal, tu brises une dynamique. On sait qu'ils sont sur une série de 12 victoires consécutives, je crois, cette équipe de France féminine. C'est important de garder cet enthousiasme, cette dynamique de victoire et garder cette barre de confiance à fond parce que tu te fais accrocher par l'Islande. Certes, ça n'a pas un enjeu comptable important, mais c'est une défaite dans les têtes et ça peut fragiliser le groupe.
D'autant plus que c'est l'info qu'on attendait et qu'a donné Corinne Diacre lors de sa conférence de presse, Anthony. Blessure de Katoto, donc plus d'avant-centre, en tout cas d'envergure internationale. Malgré tout, elle veut rester dans ce schéma de 4-3-3, donc ça sera un changement poste pour poste pour remplacer Marie-Antoinette Katoto, a priori.
Oui, vous vous en doutez, évidemment, ça a été le sujet principal de la conférence de presse d'avant-match hier, ici, au New York Stadium. On a tout de suite, tous les journalistes, posé les questions sur la réorganisation tactique et surtout sur la réorganisation du dispositif offensif, puisque ce 4-3-3 a été, entre autres, construit pour Marie-Antoinette Katoto. Donc, effectivement, avec le forfait de la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, il faut un petit peu modifier tout cela sans modifier la structure. Et c'est ce qu'elle m'a dit sur une de mes questions, Corinne Diacre. Elle ne veut pas bouger ce 4-3-3, qui est le schéma préférentiel des Bleus depuis un bon moment maintenant. Mais il pourrait y avoir peut-être quelques ajustements. Alors, effectivement, on pense à Oulemata Sarr, qui était l'attaquante suppléante naturelle de Marie-Antoinette Katoto. C'est pour ça d'ailleurs que Diacre l'a sélectionné sur cet Euro. C'est avec sa capacité de prendre la profondeur, avec sa belle vitesse de pointe aussi. L'attaquant du Paris FC a vraiment des qualités intéressantes. Mais il pourrait y avoir un mais, parce que vous savez que Corinne Diacre est la reine des fausses pistes. Elle adore mener un petit peu en bateau. Et quand elle parle en général d'une joueuse la veille d'un match, qu'elle a été satisfaite au match précédent, parfois, elle n'est pas titulaire. Donc, attendons de voir quand même. On attend les infos, parce qu'il faut savoir aussi que la composition est donnée au tout dernier moment.
Et ça, je voulais entendre Stéphane là-dessus. C'est vrai que c'est une méthode de travail particulière. Les joueuses ne savent pas si elles vont débuter à quelques heures du match. Il est 18h08, vous écoutez RMC, et on ne sait pas encore. En tout cas, les filles ne savent pas encore si elles vont démarrer ce match qui aura lieu à 21h contre l'Islande.
Écoute, qu'est-ce
que tu en penses de ça?
C'est une méthode que Corinne Diacre utilise depuis pas mal d'années maintenant. Donc les joueuses sont prêtes à ça. C'est pas une surprise. Il y a pas un bouleversement de la façon de faire sur un match contre l'Islande. Donc les joueuses sont prêtes. Ça permet de garder tout le monde concerné. Il y a du pour, il y a du contre sur les deux façons de faire. Si 24 heures à l'avance, tu préviens les 11 qui démarrent, ta séance de veille de match sur les filles qui vont pas débuter, peut-être qu'il y a un petit peu plus de laxisme.
Ouais, mais toi, à la place d'Oulemata Sarr, s'il y a des joueuses à la pointe de l'attaque, elle sait même pas si elle va démarrer à 3 heures du match.
Oui, mais à ce niveau-là, les joueuses sont professionnelles, elles jouent toutes dans des grands clubs, elles doivent être prêtes psychologiquement à démarrer parce que quand tu es dans l'incertitude, tu as ce côté. Ok, peut-être que je vais démarrer, peut-être que je vais pas démarrer. Mais donc t'es focus et t'es prête. Je suis pas sûr que ça perturbe. Les joueurs sont habitués à cette façon de faire de Corinne Diacre. Ça permet de garder tout le monde concerné. Moi j'aime bien. J'aime bien. Au moins, t'as pas affaire à la tristesse des joueuses qui sont déçues de pas jouer. Parce que tu vois, t'annonces à une joueuse, tu démarres pas le match. Il y a une ou deux joueuses qui peuvent faire la gueule et ça peut te briser une espèce d'alchimie dans le groupe.
Après, Stephen, ce qui est assez drôle et cocasse en fait dans cette situation, effectivement, comme tu le disais, Corinne Diacre a cette méthode depuis très longtemps, quasiment depuis son arrivée en 2017 à la tête de l'équipe de France. Mais l'un des premiers motifs de cette méthode, si ce n'est peut-être le premier au départ, c'est de que les journalistes ne soient pas au courant de la composition d'équipe.
C'est pour toi, ça.
Et oui, entre autres. Et ça a été une vraie obsession, notamment lors de la Coupe du Monde 2019, où elle brouillait complètement les cartes lors de la dernière séance. La crainte des fuites. Et on avait, il faut le dire, on peut le dire, maintenant il y a prescription, on avait des stats qui nous permettaient en 2019 de voir.
Tu montais sur les épaules de Jeannot, tu voyais. Tu voyais pas grand chose sur les épaules de
Jeannot. Et en plus, j'avais les jumelles, tu vois. Enfin, c'était quelque chose, quoi, tu vois. Et donc, ça a été une des motivations premières. Effectivement, ça garde en éveil tout le groupe parce que personne, jusqu'au moment où les filles entrent dans la salle de la dernière causerie, donc d'ici, on va dire, une petite vingtaine de minutes, personne n'est assuré à 100%, quasiment, on va dire, d'être titulaire.
Anthony, tu tiens combien de temps avec Jeannot sur tes épaules?
Ouais, je suis endurant. Je pense qu'on peut réussir à jouer le jeu des poteaux, non ?
Bon, ouais, pourquoi pas. Carrément sur un poteau.
C'est le jeu des poteaux, ça gêne le poteau. Hein.
Bon, évidemment, l'embrasse, c'est parce qu'il est juste à côté de toi. Donc,
je ne devais pas parler, ouais, mais là, ça suffit. J'interviens. Salut, Stéphane.
Salut, Jeannot.
Non, mais Jeannot, évidemment, c'est pour te chambrer. Tiens, bah, un mot avec.
Ah, j'avais compris.
Avec vous deux, parlons juste de l'adversaire du soir, l'Islande. Donc, l'Islande a 2 points, 2 matchs nuls sur les 2 premières journées. À quel type de match faut-il s'attendre, messieurs ? Un combat rugueux ? Est-ce qu'il y a des joueuses de talent en face ?
Ah, il va falloir s'attendre à un énorme combat, un défi athlétique permanent. C'est l'ADN de cette équipe d'Islande. Souvenez-vous, les Bleus les avaient rencontrées, ces Islandaises, lors de la phase de groupe de l'Euro 2017. Et elles étaient passées par un trou de souris, un pénalty de Jenny Le Sommer à l'époque. Et elles avaient été bousculées de bout en bout, de la première à la 90e minute, par cet impact physique que sont capables d'impulser les Islandaises, des joueuses très athlétiques, relativement grandes, qui posent des problèmes aussi dans le jeu aérien, qui ne lâchent jamais le porteur du ballon. Ça va être très difficile. Et puis, il faut le dire, les Islandaises jouent leur peau ce soir, Jeannot.
Elles gagnent, elles sont qualifiées, tout simplement, ouais. Sans rentrer dans les calculs. S'il y a match nul, il faut faire attention à ce qui se passera dans l'autre match, par exemple entre la Belgique et l'Italie, et un match nul qualifierait les Islandaises, qui ont déjà eu 2 quarts de finale dans leur histoire à l'Euro, en 95 et en 2013. Des Islandaises qui sont dans le coup pour la qualification pour la Coupe du Monde. Elles sont dans le groupe des Pays-Bas, justement, c'est ça qui est intéressant. Elles ont perdu contre les Pays-Bas. Elles étaient leaders jusqu'au 28 juin dernier, puisque les Pays-Bas n'ont pas fait de véritable préparation à l'Euro. Elles ont dû jouer contre la Biélorussie un match éliminatoire de la Coupe du Monde qu'elles ont gagné. Mmh. Et du coup, elles sont passées en tête dans le groupe C. Il y aura un Pays-Bas-Islande. Elles peuvent, en cas de défaite face aux Néerlandaises, se qualifier encore par le biais des meilleurs deuxièmes, comme ce sera le cas peut-être pour la Belgique. Donc, une équipe solide, une équipe composée de beaucoup de dotiers, hein, vous le savez, puisque c'est les tsones chez les hommes, ouais. C'est les dotiers chez les dames, puisque c'est filles d'eux. Hein, donc, voilà, on va se régaler au niveau de la prononciation. Et puis, on aura le plaisir de retrouver, surtout avec son charmant sourire, l'ex-lyonnaise Gonars Dottir, qui jouera la saison prochaine à la Juve, qui fait partie des 6 mamans de cette formation de l'Islande. Pardon. Et première dans l'histoire du football français, puisqu'elle a devancé de quelques semaines Amel Majri, autre lyonnaise qui a été maman depuis peu. Donc de belles histoires aussi autour du football féminin. Ouais,
on est content que tu sois passé, Jeannot. Oui.
Jeannot, il ne devait pas parler, finalement, il a envoyé toutes ses stats, parce que ça le dimanche.
Non, mais merci. On rappelle qu'RMC radio officielle de l'Euro féminin, et évidemment,
je vous laisse.
Tous les matchs en intégralité. Merci, Jeannot. Merci, Anthony.
Avec plaisir, monsieur. Ciao, ciao.
21h, France-Islande. Et d'ailleurs, une invitée ce soir autour de Nicolas Jamin, l'ancienne internationale Corinne Petit, 89 sélections en équipe de France. Elle passera la soirée avec nous pour commenter justement le match des filles et le match en intégralité avec Anthony et avec Jeannot Rességuier, évidemment. 18h13, Stephen sur RMC. On va passer de l'Angleterre au Japon. On va aller voir ce qui se passe pour le Paris Saint-Germain. On va retrouver Arthur Perrault. Il est tard chez lui. Donc, on va voir ce qu'il a fait de sa journée. La tournée promotionnelle qui se poursuit pour les joueurs du PSG. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h16 sur RMC Intégral Sport jusqu'à 20h avec l'excellent Stephen Brun qui est là toute la semaine. Évidemment, Stephen, dans un quart d'heure, on prendra les nouvelles du Mercato. Voilà, le Mercato Show.
Très bien.
Pas mal d'infos à vous donner autour de l'OM. Voilà, c'est Nicolas Pelletier qui va s'y coller ce soir. Tu verras que ça bouge à Marseille. On a peut-être trouvé le successeur de Steve Onanda. Ça y est.
Arrête.
Ouais, tu verras.
Est-ce que Nicolas Pelletier va nous donner le vrai âge de la recrue de l'OM ou pas ?
Ah, c'est son défi. Mbemba. Voilà, on verra. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un doute. Il y a quatre
dates de naissance.
Voilà, quatre dates de naissance sur des documents officiels. 4 dates de naissance différentes, évidemment, avec des années de naissance différentes. Donc, évidemment, il va percer ce mystère. Et puis à 18h45, on va revenir sur le tirage au sort pour l'AS Monaco, pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, l'AS Monaco qui affrontera le PSV Eindhoven. 18h16, premier entraînement donc à Tokyo pour les joueurs du PSG au lendemain de leur arrivée au Japon. Les Parisiens se sont entraînés une heure sur la pelouse du Shishibonomiya Stadium.
Bravo.
Mokundu, mon petit Stephen.
Un stade de rugby, ça, non ?
Stade de rugby, exactement. On en parle avec Arthur Perrault, suiveur du PSG. Salut Arthur.
Kombawa, messieurs, bonsoir à tous.
Oh l'autre, ça y est, il se la pète. Léo. Ça y est, il se la pète.
J'ai pris des cours. J'ai pris des leçons auprès de Morgan Maury, notre spécialiste omni judo. Donc là, bon. je suis bien briefé.
Arthur,
je suis bien briefé.
Nous, on crame ici en France sur l'Hexagone. Est-ce qu'il fait chaud au Japon ?
Ici aussi, oui.
D'accord.
Tu parlais de cette séance d'entraînement ce soir au Shishibunomiya Rugby Stadium dans le quartier d'Aoyama, que connaît peut-être Stephen.
Bon, t'as un peu de travail encore.
Ouais. Sur place, pour vous donner une idée, 30 degrés et 75% d'humidité. Il y avait beaucoup de journalistes, surtout locaux, près de 70 médias. En restant sur place, on transpire. Pour vous donner une petite idée, donc c'est dire à quel point ça va être un vrai test physique aussi pour les joueurs qui ont beaucoup transpiré au cours de cet entraînement.
Arthur, est-ce que tu ressens du coup un vrai engouement autour du PSG là-bas à Tokyo ?
Oui, très clairement. Et pour vous imaginer un peu tout cela, en arrivant justement ce soir à 19h heure locale pour cet entraînement public, il y avait une file d'attente impressionnante tout autour du stade, dans tout le quartier. Vous avez une idée de la rigueur japonaise. Les personnes étaient vraiment dans une file, et la file allait d'un côté à l'autre du stade en traversant tout le quartier. C'était vraiment impressionnant pour finalement une séance devant plus de 13 000 fans. Le stade qui était à moitié plein, et puis forcément un public acquis à la cause du Paris Saint-Germain. En tribune, on pouvait voir des maillots Neymar, Messi, Mbappé.
Justement,
c'est vrai que c'est les trois principaux noms qui ressortent pour l'instant.
À ton avis, Stephen, c'est lequel le plus populaire des trois au Japon?
Je dirais qui est Mbappé.
Ah, tu penses?
Je pense.
Moi, je miserais sur Messi. Alors,
Je pense que c'est Messi. Oui, le fameux c'est Messi. Et c'est vrai que c'était aussi impressionnant pendant cette séance, parce que à chaque fois que un des trois touchait le ballon ou faisait n'importe quel geste, le public commençait à être surpris, à taper des mains. Voilà, on sentait qu'il se passait quelque chose en tribune uniquement pour ces trois joueurs-là. C'est vrai que c'était vraiment accentué pour ces trois joueurs. Après, il y a quand même eu des surprises. C'est vrai que nous, médias, on était placés derrière d'abord la cage des gardiens, donc pour la séance d'entraînement de Letellier, Rico, Navas et Donnarumma. Et c'est vrai que même à certains moments des parade de Letellier, on entendait dans le public des gens dire Alex, 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 et des supporters japonais. Donc c'est dire à quel point ils connaissent cette équipe, et voilà, ça se ressentait vraiment au cours de cette séance d'entraînement.
Bon, d'ailleurs, l'opération marketing du matin menée avec des enfants, on a aligné quatre stars, hein, Marquinhos, Neymar, Messi, Mbappé, hein, c'était l'idée du PSG.
Normal.
C'était dans la lignée. Oui, c'était un peu dans la lignée de la conférence de presse, plutôt le show qui a été organisé hier au Japon pour le premier rendez-vous face à la presse. Il y avait de nouveau un casting de stars, hein, Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Marquinhos et évidemment Christophe Galtier. On rappelle que cette séance se déroulait devant 42 jeunes supporters qui avaient été sélectionnés par le compte Twitter officiel du Japon. C'est vrai qu'une nouvelle fois, les joueurs du Paris Saint-Germain ont filé le costume de promoteur pour cette opération promotionnelle. On a beaucoup vu beaucoup entendu de beaux discours, notamment Marquinhos qui a rappelé qu'il était très content d'être ici avec les joueurs, le staff du PSG, que c'est un moment important pour lui. Ils ont aussi beaucoup joué le jeu avec les enfants. On a vu beaucoup de scènes de joie, on les a vu taper dans les mains des enfants, qu'on a pu interroger à la fin de ces exercices. Il y a eu plusieurs ateliers organisés par le Paris Saint-Germain. Et voilà, pour eux, c'était un rêve. Ces stars qu'ils regardent à la télé tout au long de l'année. C'est un peu particulier ici au Japon, parce que avec le décalage horaire, les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions tombent vers 3h, 4h du matin. Et ce public a pris le réflexe de se lever à ces heures-là, y compris les enfants, parce qu'on a croisé plusieurs personnes aux boutiques officielles du club ici à Tokyo qui nous disaient « Bah moi, je me lève avec mon fils à 3h, 4h du matin pour regarder les matchs. » Et voilà, on est totalement à fond.
Bon, tu
voilà
vas pas un peu
le discours des supporters japonais.
Ils vivent ce que je vis avec la NBA.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu vas pas surprendre Stephen, alors, ça toute l'année aussi.
C'est vrai que ça ressemble à ce rythme de vie-là, ouais. Les supporters de NBA. Ouais.
Stephen, qu'est-ce que tu penses de ce genre de tournée, opération de préparation estivale, opération financière, hein, ça rapporte quasiment 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain.
Moi, j'aime bien.
Quand on est joueur, comment on le vit, à ton avis? Correctement, comme une...
Correctement, déjà, ce qui est bien, c'est qu'Yann Mbappé est descendu de sa chambre pour les activités promotionnelles.
C'est
une bonne nouvelle. Non, moi, ça me plaît. Alors, au-delà de toute considération financière, bien sûr qu'il y a un enjeu financier là-dedans. Moi, je trouve ça bien quand je vois l'engouement de ces petits Japonais en tribune. Il y a un gamin qui a percé le cordon de sécurité pour aller voir Lionel Messi. Moi, je trouve bien que des joueurs et des clubs comme le Paris Saint-Germain avec leurs stars viennent donner un petit peu de rêve à des gamins qui n'auront peut-être jamais l'occasion de les voir en vrai au Parc des Princes ou ailleurs sur une Coupe du Monde. Donc je trouve ça plutôt bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce que Arthur nous retranscrit, c'est que les mecs jouent le jeu. Les mecs jouent le jeu, les Marquinhos, ouais. les stars, Messi, les mecs jouent le jeu, font les trucs avec les enfants, ont le sourire, passent du temps. C'est aussi fait pour ça. C'est pour que les bien mecs sûr. puissent partager avec les enfants. Donc moi j'aime bien ce genre de truc là. Et quand j'étais joueur, moi ça me plaisait parce que ça change du quotidien, ça change de ta routine d'aller au camp des loges. Là t'es au Japon, tu découvres aussi une culture qui est différente dans des conditions qui sont optimum. Mais je trouve que ça change l'ordinaire et c'est plutôt sympa. Après il faut parler aussi un petit peu de sportif. Arthur, sur l'entraînement, il y a eu des choses, il y a eu des premières mises en place, il y a eu quelques petits indices
ou même des scènes auxquelles tu as assisté. Est-ce que tu as vu des discussions poussées entre Galtier et certains joueurs? Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, Arthur?
Oui, c'est vrai que c'était une séance très intéressante. D'abord, pour parler de la durée. 1h30 d'entraînement, ce n'est pas rien. On a l'habitude de séances, on avait l'habitude sous Mauricio Pochettino de séances d'environ 1h. On a eu le droit à deux oppositions plutôt intéressantes. D'abord un 10 contre 10 sur grand terrain avec deux oppositions donc, et notamment d'un côté le trio Messi, Mbappé, Neymar qui a été mis en action, et on a vu beaucoup de discussions justement de ce trio là avec Christophe Galtier sur les différentes courses que chacun peut anticiper, voilà, demander beaucoup de conseils à Christophe Galtier qui n'a pas hésité à aller leur montrer directement à leur place quels étaient vraiment les mouvements à prendre. Après, il y a eu deux exercices de 6 contre 6. Bon, là, c'était sur petit terrain. Mais que retenir? Notamment de très bonnes choses du côté de la recrue Vitinha qui est déjà très entreprenant et qui a montré vraiment de très belles choses au cours de cette séance d'entraînement. Et puis il y a un joueur qui a joué dans cette phase de 6 contre 6 le rôle de joker, qui a récupéré le chasuble pour jouer d'un côté comme de l'autre. C'est Zaïre Emery qui a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain.
Un scouting.
Exactement, et qui a vraiment été impressionnant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette séquence sur rmcsport.fr. Dans ce rôle de joker de numéro 6, Zaïre Emery qui a vraiment fait forte impression ce soir au cours de cette séance d'entraînement.
Et notre ami Neymar, il est comment? Il est impliqué, il est affûté, il est souriant, il discute avec tout le monde, il est impliqué ou pas?
Alors, il a ressenti il y a quelques jours une gêne musculaire. Ça va beaucoup mieux et c'est vrai que depuis le début de cette tournée, lui joue le jeu totalement. Tu en parlais il y a quelques instants, Stephen. On l'a trouvé très souriant, chambreur, notamment quand tout à l'heure à l'entraînement, un jeune joueur a posé une question à Marquinhos de qu'est-ce qu'il aimait dans la culture japonaise et que Marquinhos lui a parlé des sushis et des yakitori. Donc voilà, un Neymar très chambreur, mais aussi très affûté. Très impliqué, notamment dans le repli défensif. Ce qu'on attendait un peu de lui à un certain moment la saison dernière, là il le montre déjà, il fait les efforts et c'est forcément de bon augure. Alors, avant le premier match amical.
Qu'est-ce que tu as observé du coaching de Christophe Galtier? Est-ce qu'il est interventionniste? Est-ce que justement il replace beaucoup ses hommes ou il les laisse plutôt travailler et laisse ce rôle aux adjoints?
Non, il intervient énormément. C'est des séquences qu'on avait déjà entreaperçues sur les réseaux sociaux du club depuis sa prise de fonction la semaine dernière. Il intervient, il est présent partout, il se déplace sur les différents ateliers quand il y a plusieurs ateliers. Il n'hésite pas à demander du rythme, on l'entend souvent dire plus vite, allez vraiment plus vite, mettez plus de rythme. On l'a vu aussi insister auprès de Presnel Kimpembe, des défenseurs tout à l'heure, en demandant voilà, dans les transitions, dans les changements de côté, d'aller beaucoup plus vite. C'est un coach qui est très impliqué, qui oui a un staff qui est très présent, mais il garde le lead. Quoi qu'il arrive, il garde le lead et il montre aux joueurs qu'il est là et aux différents postes clés pour le Paris Saint-Germain.
Alors on a parlé de la recrue Vitinha. Stephen, sache que Hugo Ekitike n'a pas encore pu rejoindre ses coéquipiers, pas de visa pour l'instant. Est-ce que tu en sais plus, Arthur? Est-ce qu'on sait quand est-ce que l'ancien attaquant rémois va rejoindre le reste du groupe?
Alors déjà, il faut dire qu'il a une bonne excuse parce que donc il reste dans l'attente de son visa pour pouvoir s'envoler pour cette tournée estivale. Parce que aujourd'hui, c'était un jour férié du côté du Japon. C'était la journée dite Umi no I, le jour de la mer en français. Donc l'ambassade de
mer,
Paris,
hein, la mer, l'océan,
la mer noire. Oui, exactement. Ouais. Ouais, la mer noire. Ouais. Donc l'ambassade de Paris était fermée aujourd'hui pour les demandes de visa. Du côté du Paris Saint-Germain, on nous explique que voilà, on fait tout pour le faire venir au plus vite du côté de Tokyo. Ça devrait se boucler dans les prochains jours. En attendant, c'est quand même important de le préciser. Ekitike qui s'est rendu plusieurs fois du côté du camp des loges pour déjà déjà entamé sa préparation physique avec le staff technique et aussi, alors, le staff médical.
Arthur, deux dernières questions pour terminer. Rappelle-nous le programme et surtout le premier match amical qui va arriver, le premier au Japon évidemment pour les Parisiens. Ce sera quand alors?
Oui. Le premier match amical, ce sera mercredi, donc après-demain. Okay. Ce sera face au Kawasaki Frontal du côté du stade national de Tokyo. Kawasaki Frontal qui est le champion en titre de G-League, oui, le jeu de mots. Voilà, coup d'envoi à 12h30 heure française. Ensuite, ça ira très très vite parce qu'il y aura un autre match amical samedi face à l'Urawa Red Diamonds du côté de Saitama, un peu plus au nord de Tokyo. Et puis ensuite, le groupe parisien, le lendemain, le 24 juillet, prendra la direction d'Osaka pour y affronter le Gamba du côté du Panasonic Stadium. Et puis, ça va enchaîner très très vite du côté du PSG.
Et puis, autre précision que tu nous as donné il y a quelques minutes sur rmcsport.fr. Tu sais, Stephen, qu'il y a des indésirables désormais au PSG. Il y a des joueurs qui n'ont pas été retenus pour ce stage.
Pour le voyage, ouais.
Ils continuent de s'entraîner. Hein. Arthur, on peut citer Kurzawa, Draxler, Herrera ou encore Wijnaldum.
C'est la moindre des choses quand même, ils continuent de s'entraîner.
Ouais.
Oui, alors c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a 25 joueurs qui participent actuellement à la tournée au Japon, que les noms convoqués, eux, du coup, restent bien en action du côté du centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye. Selon nos informations, ils s'entraînent quasi quotidiennement. C'est voulu forcément du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'on a laissé volontairement une partie du staff technique et du staff médical sur place pour permettre justement à ce groupe de maintenir son activité. On rappelle ces noms, Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, des noms qui sont déjà cités dans plusieurs clubs dont il y a des intérêts à l'étranger. Donc voilà, ces joueurs sont toujours bien présents du côté du camp des Loches.
25 présents au Japon, ça veut dire que ceux-là, on ne compte vraiment pas dessus. Hein, Stephen, là, c'est vraiment ceux à qui on dit allez trouver une porte de sortie.
Oui, c'est le message qui est envoyé à ces garçons-là en disant cette saison, ça va être compliqué pour vous, il faut vite que vous trouviez un club. Maintenant, on connaît les complications de faire partir ces garçons-là, notamment en termes de salaire. Mais tu sais, on a déjà vu des situations où des garçons étaient mis de côté et puis finalement, ils se retrouvaient dans le groupe et ils réintégraient le groupe.
Quel état de sort, ça lui est arrivé l'an dernier.
Exactement. Donc, écoute, moi, je suis curieux de voir qui ils vont trouver pour récupérer des garçons comme Wijnaldum, comme Kurzawa. Ça dépend aussi de ces garçons-là, s'ils sont prêts à s'asseoir aussi un petit peu sur une partie du salaire, s'ils ont envie de jouer au football.
Et puis il y a toujours cette solution du prêt avec option d'achat pour
prendre en charge une partie du salaire. Ouais, effectivement. Mmh. Mais après, ça fait quand même des beaux garçons hein, dans des loges qui s'entraînent tout seuls. Et un dernier mot sur ce qu'a dit Arthur sur Galtier. C'est normal qu'il soit archi présent à l'entraînement, c'est normal qu'il soit vocal, c'est normal qu'il soit impliqué. Le mec, il vient d'arriver. On a émis beaucoup de critiques sur sa possibilité, sur sa capacité à gérer ce vestiaire-là. Donc, il doit s'imposer.
Il ne peut pas déléguer
à ses assistants d'entrée de jeu. Il faut qu'il se montre présent, qu'il donne ses idées et qu'il arrive à convaincre aussi ces mecs-là disant, OK, lui, il maîtrise le football, on va le suivre.
Arthur, tu voulais rajouter un truc?
Non, c'est vrai que pour l'instant il est très impliqué. Après, il l'a dit et c'était vraiment le mot très important de la conférence de presse, plutôt le show organisé hier par les Japonais pour l'arrivée des joueurs parisiens. Il l'a tout de suite dit. Il a dit, on sait que ce sera des matchs amicaux assez compliqués parce qu'en face il y a quand même des équipes très techniques et très rapides. Mais ces matchs-là servent surtout à préparer le trophée des champions. Voilà, le Paris Saint-Germain dans ses séances d'entraînement là en ce moment même pense déjà à ce match face à Nantes du côté de Tel Aviv à la fin du mois.
Eh oui, le trophée des champions, c'est le 30 juillet, hein, c'est ça le trophée des champions à suivre sur RMC. Donc évidemment, ce sera le premier gros test pour Galtier avec ce trophée mis en jeu.
Le PSG qui s'est fait taper par Lille l'année dernière.
Exactement, bien vu Stephen, t'es là.
1-0. Hein,
foot. Bravo. Oui. Merci Arthur, bonne nuit.
Ce sera dimanche 31 juillet,
cette
finale de trophée des champions.
Ça sera rentré quand même. Ouais.
Je vais faire l'aller-retour et après on repart avec Timothée Mémon du côté de Tel Aviv.
Eh ouais, puis il est beau.
Ça en fait des miles. Hein.
Ça en fait des miles.
Ah ouais, là.
Bientôt ça va être la business.
Ah ouais, là, c'est sûr. Bravo Arthur, bonne nuit. Hein. Et puis on se dit à bientôt.
Au Yasumi, messieurs.
Voilà,
bonne
c'est
nuit.
Ça. Ciao. Et puis on se retrouve rapidement. Et toutes les infos autour du stage du PSG au Japon sont à retrouver sur rmcsport.fr. 18h38, n'importe quoi, 31 sur RMC. Stephen, tu restes là dans un instant. Le Mercato Show, les infos du Mercato marseillais avec Nicolas Pelletier. Pas mal d'infos à vous donner, notamment le futur remplaçant de Steve Landa. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h35 sur RMC, toujours avec Stephen Brun qui est de retour de vacances, qui est beau, qui est bronzé. comme un Hollandais.
Magnifique, comme un Hollandais. C'est pas un compliment.
Dans 10 minutes, on prendra les nouvelles de l'AS Monaco. On va analyser le tirage au sort de ce troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Monégasques qui seront opposés au PSV Eindhoven. Un bon souvenir pour eux parce qu'ils les avaient croisés en phase de poule de Ligue Europa. Ils les avaient battus. Il y avait eu un match nul. Donc, c'est bien passé pour Monaco contre ce club néerlandais. Et puis à partir de 19h, retour sur les routes du Tour de France, retrouver Cyril Guimard le druide et Valentin Jamain pour évoquer justement les enjeux de la dernière semaine, ce duel au sommet entre Vingegaard et Tadej Pogacar.
RMC, le Mercato Show.
Le Mercato Show avec Nicolas Pelletier aujourd'hui. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Alors évidemment, on voulait parler de l'OM. Il se passe pas mal de choses à Marseille. Pablo Longoria a trouvé le remplaçant de Mandanda, même si le dossier est assez compliqué finalement, Nicolas.
Oui, d'après nos informations, le club phocéen est en discussion avancée avec Ruben Blanco, le portier du Celta Vigo. Un profil qui a été validé par l'entraîneur Igor Tudor. Mais le dossier n'est pas encore finalisé parce que le club espagnol en fait veut trouver rapidement son gardien numéro 1. Dès que le Celta aura trouvé son nouveau gardien, ça pourrait bouger dans les prochaines heures sur ce dossier du portier.
Un drôle de dossier et une drôle d'histoire aussi parce que tu fais venir un gardien en prêt qui sera ton numéro 2 parce qu'a priori Paul Lopez va rester le numéro 1. Donc,
et un gardien qui était numéro 1 au Celta Vigo.
C'est assez particulier comme dossier.
J'ai l'impression que tous les dossiers gardiens de but sont de plus en plus compliqués depuis quelques saisons et qu'on n'a plus aujourd'hui.
Tu penses au PSG.
Oui, aussi. Non, mais il y a plus aujourd'hui de vraies hiérarchies établies où parfois tu avais des numéros 2 qui étaient vraiment bien en dessous. Tu avais des gardiens qui ont fait des carrières de numéro 2 pendant toute leur vie. Aujourd'hui, Rémi Vercoute notamment, aujourd'hui, les gardiens, il y a de plus en plus de matchs aussi. Les calendriers sont monstrueux, donc il y a de plus en plus de possibilités de jouer. Maintenant, Sampaoli, l'année dernière, il a eu des choses à gérer. Mandanda content, Mandanda pas content. J'espère qu'il va mieux gérer ça et qu'il va établir Paulo Lopez en numéro 1 et que ce garçon-là va arriver en tant que numéro 2.
Après, peut-être que Igor Tudor n'a pas les mêmes idées que Sampaoli. C'est vrai que Sampaoli demandait des choses particulières à ses gardiens de but. Est-ce que Igor Tudor va demander les mêmes choses? C'est pas sûr, mais Paulo Lopez, c'était un vrai choix de Sampaoli. Donc là, c'est vrai que à voir ce que va en penser le.
Paul Lopez a été quand même un gardien correct la saison dernière. J'espère que Tudor va pas dire c'est une idée de Sampaoli. Sampaoli, j'en veux plus. Lui, Blanco, là, qui arrive.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des caractéristiques particulières. Donc, Tudor s'adapte aussi.
Voilà. Tudor, j'espère qu'il va.
Il va se réveiller. Super. Vous voyez, Stéphane est en très grande forme. Justement, Marseille, il n'y a pas que le dossier du gardien de but. Il y a ce fameux dossier Tiemoué Bakayoko qui fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a vu cette vidéo qui tourne.
La police italienne qui s'est excusée.
Arrestation en Italie, avec une fouille un peu poussée. Puis ensuite, on se rend compte que
c'est je crois que j'ai oublié de lancer.
Tu as vu la réaction du policier.
Oui, un petit attendo.
RMCsport.fr. Où on en est de ce dossier Bakayoko? Les infos qu'on avait, c'est que c'était une volonté de Longoria, mais que Igor Tudor, justement, ne voulait pas du joueur.
Alors, depuis plusieurs jours, des médias annoncent que le milieu de terrain de Chelsea prêté au Milan AC, on le rappelle, Tiemoué Bakayoko, serait l'une des priorités de Pablo Longoria. Alors, ce lundi matin, le quotidien La Provence refroidit tout le monde. Selon le journal, l'international français ne représente plus une option pour l'OM sur ce mercato d'été. On apprend que le profil du joueur n'avait pas été validé par Sampaoli et il n'est pas validé en fait par Igor Tudor. Donc les deux n'en veulent pas et donc c'est une fin de piste pour l'Olympique de Marseille.
Donc c'était une idée suggérée par le président et les coachs n'en voulaient
pas. Mais les deux coachs n'en voulaient pas.
Et puis on parle aussi d'Amin Harit. Tu sais, il était prêté à l'OM la saison dernière, il appartient à Schalke 04. Si Marseille veut le récupérer, il va falloir sortir un peu d'argent.
Un petit chèque, oui. L'OM étudie toujours la piste du milieu de 25 ans. Il est retourné dans son club de Schalke. L'OM espère le récupérer. Alors il faudra débourser pas mal d'argent parce qu'il y a deux autres clubs sur ce dossier, c'est le FC Porto et Galatasaray. Et d'après les informations de la Sky en Allemagne, le club de Schalke a repoussé une offre de 5 millions d'euros en provenance de Galatasaray. Et Schalke en veut au moins 10 millions d'euros.
Ah ouais, gros.
Et le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 avec Schalke.
Parce que Schalke Nunfir.
Exactement. Basé dans quelle ville ?
Aucune idée.
Gelsenkirchen,
d'accord.
Non, mais c'est vrai que là aussi, c'est un dossier particulier. Parce que c'est
il avait été bon sur la fin de saison.
Il avait été bon, il a rendu des services à Sampaoli. Après, c'est toujours le même problème. La direction sportive a changé. Est-ce qu'on va insister pour Amin Harit? C'est une vraie question. Le mercato marseillais, pour l'instant, c'est...
L'avantage, c'est un joueur que tu connais, dont tu connais l'état d'esprit.
Et qui connaît l'environnement marseillais.
Exactement, et qui s'y est plutôt bien adapté.
C'est vrai.
Mais est-ce qu'il vaut 10 millions d'euros?
Bah, c'est ça. Bravo. On se pose pas mal de questions.
La question qu'on se pose, surtout, c'est qu'on est en train de se dire que l'OM n'a pas 10 millions d'euros.
Bah, en tout cas, pas pour un joueur qui mérite.
Oui, oui.
Voilà, on veut peut-être. Bah
après, c'est pareil aussi sur le dossier Klose, hein, où l'OM avait fait une offre de 5 plus 1, mais après, le joueur est sous contrat jusqu'en 2023. Donc, c'est différent. Là, il reste 2 ans de contrat pour
Aminarit. 18h40 sur RMC. D'autres dossiers à aborder, justement, Nicolas, d'autres infos. Peut-être un potentiel plan B à Rennes. On sait que le dossier du Sud-Coréen Kim Min-jae est assez compliqué. Il y a beaucoup de concurrence sur le dossier. Lui, il évolue au Fenerbahçe. Il évolue notamment par le Napoli. Si jamais ça se fait pas, Rennes réfléchit à une autre solution.
Il y avait aussi la piste Samuel Umtiti qui s'est refroidi complètement. Le club a décidé de partir donc à la recherche d'un nouveau profil et il cible le joueur de Benfica, Morato. Rennes aurait fait plusieurs offres refusées par le club portugais. Une première de 13 millions d'euros, bonus compris. Une deuxième de 13 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus et un 20% à la revente. Toutes les deux offres ont été refusées par le club portugais. Mais là encore, en fait, le club portugais en veut 15 millions d'euros. Et j'ai regardé tout à l'heure, c'est un joueur qui a joué 15 matchs la saison dernière avec le club.
15 matchs, 15 millions. Si on avait joué 20. j'espère que ça va arrêter de prendre des Morato.
Excellent. Excellent. T'imagines si c'était Gendouzi qui a fait 60 matchs dans la saison, ça coûte cher. Hein.
Ouais.
Ah ouais. Et ça commence à grimper. Tiens, et puis là, je vais m'adresser non pas à Stephen Brun, le membre du Moscato Show, non pas à la grande gueule, non pas à l'ancien joueur de basket fantastique, mais au consultant Première Ligue, parce que t'as commenté la Première Ligue sur RMC Sport. On va parler de Cristiano Ronaldo.
Ah,
eh oui, où va jouer Cristiano, mon petit Nico? Est-ce qu'on a des infos fraîches aujourd'hui?
Alors, en fait, depuis plusieurs semaines, on le sait, hein, son agent, Jorge Mendes, sonde le marché. Samedi, c'est le Bayern qui a dit non, clairement, à CR7. Et le Portugais cherche donc une nouvelle destination. Selon AS, l'Atlético de Madrid serait très intéressé par Ronaldo. Diego Simeone aurait donné son feu vert. Non, c'est vrai. Pour que le club commence à explorer cette piste, il pourrait donc bientôt retrouver la capitale espagnole, même si
Atlético Madrid.
Ouais.
Attends, mais on est où là? Le mec pendant 9 ans avec le Real, il a uriné sur l'Atlético, et là il va arriver au Wanda Stadium, il va embrasser les... Bon, non, arrêtez.
Moi aussi.
On a vu pire.
C'est pas ton football, ça.
Ça, c'est pas mon football, ça.
Bah, attendez, mais je comprends.
Non, mais elle est où la limite? Évidemment. Un Marseillais sur le bord du PSG aussi? Bon, attends, on va pas arrêter.
C'est pas
mal. Ce qui est grave, c'est qu'en train de se passer avec Cristiano Ronaldo, qui a été pendant X années le meilleur joueur au monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, il est vert pays, il fait du commerce, il fait du porte-à-porte, il tape dans la porte. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien de moi? C'est quoi? Enfin,
qu'il vaut mieux partir aux États-Unis, faire une dernière année et prendre aussi de l'argent? Plutôt que de.
Le problème, c'est que le mec, à l'image d'un Zlatan, se pense, et il l'est encore, il a prouvé, individuellement, il est compétitif encore, et il s'estime capable de jouer dans un grand club évoluant en Champions League.
Après, ce qu'il se dit aussi, c'est qu'il est dur à gérer, parce que s'il est là, t'es obligé
tout
de.
Tout tourne autour
jouer,
de lui, et à un moment donné, il est peut-être un petit peu sur le déclin, et qu'il y a d'autres joueurs autour dans une équipe qui aimeraient bien exister, et pas vivre à travers Cristiano Ronaldo. Donc, c'est très compliqué à gérer.
Quand on vous dit que c'est un consultant Première Ligue. Merci Nico, tiens, on voulait juste donner deux infos pour terminer, c'est que Dybala se rapproche de la Roma. C'est un gros coup pour la Roma de Mourinho.
Zlatan a prolongé.
Et Zlatan a prolongé, tu vois. On parle de Cristiano. Zlatan a prolongé un an avec lui.
Et il sera payé 1 million d'euros.
Alors qu'il va pas jouer pendant 3-4 ans, il est blessé, il peut perdre du genou.
Exactement. Mais bon, il fait plaisir.
Investir, c'est important.
Là, je peux te dire, c'est quelque chose. Merci Nico. En tout cas, toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. 18h43. L'AS Monaco au programme dans un instant. Supporter Monégasque. Vous venez analyser le tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Monaco qui sera opposé au PSV Eindhoven. On va en parler avec notre spécialiste du foot néerlandais, évidemment, Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h47 sur RMC avec Stephen Brun jusqu'à 20h dans un quart d'heure. Direction Carcassonne, Stephen. Eh oui, la journée de repos pour les coureurs du Tour de France avant le dernier gros morceau dans les Pyrénées. On sera avec Cyril Guimard et Valentin Germain. Et puis je rappelle également qu'on aura deux invités. Xavier Garbajosa, entraîneur du Loup. Nouvel entraîneur du Loup qui succède à Pierre Mignoni. Et puis on sera également avec Ninon Chapelle, la française, la perchiste française, qui a terminé 11e des championnats du monde à Eugene. Elle est en direct des États-Unis. Elle sera en direct avec nous. 18h48, Kevin Diaz nous rejoint. Salut Kevin.
Salut à tous.
Ça sent le rediviser là.
Ah ouais, là je croyais qu'il aime la faire en néerlandais. Ça va Kevin?
Ouais, ça va, écoute. Bon. Un peu chaud, mais ça va.
On te dérange en pleine vacances, en pleine journée de repos, pour parler évidemment du tirage au sort de la Ligue des Champions, ce troisième tour préliminaire qui attend l'AS Monaco, face à un club que tu connais bien, le PSV Eindhoven, qui a terminé deuxième de l'Eurodivisie à 2 points de l'Ajax la saison passée. On rappelle que le match aller sera le 2 ou le 3 août à Monaco. Match retour au Philips Stadion. Déjà, ce qu'il faut rappeler, Kevin, c'est que là aussi, il y a un changement d'air au PSV, puisqu'on fait confiance à un petit nouveau, une légende, évidemment, du Real Madrid, de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, nouveau coach. Hein.
Ouais, une légende.
Ah, on va retrouver Kevin dans un instant. 46 ans, Ruud van Nistelrooy. Et
la légende première... de United, la légende du PSV Eindhoven.
Première expérience en tant que numéro 1.
Rookie.
Ouais, il est entré dans la réserve à Eindhoven.
Exactement. Donc à voir aussi comment il va prendre cette équipe en main. Mais pas cadeau le tirage de l'AS Monaco pour une équipe qui a l'habitude de jouer ses compétitions européennes, qui a laissé un petit peu le pouvoir à l'Ajax Amsterdam dans ce championnat des Pays-Bas, avec des bons petits joueurs dont Kevin va sûrement nous parler. Il y a des retours, il y a des connaissances. Parce qu'ils ont signé Benitez, le gardien de but qui était à Nice.
T'es là.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Ah non, parce que tu me bluffes. Tu me bluffes sur ta connaissance footballistique. Et on va retrouver Kevin Diaz.
Voilà, qui va nous parler de Luke, de Young, de retour.
Bravo. Bravo, Stephen, bravo.
Vas-y, Kevin.
Je vous disais juste, en effet, Ruud van Nistelrooy, une légende du football européen, mais surtout une légende du PSV Eindhoven, qui était entraîneur de la réserve l'an dernier, qui a donc pris l'équipe première. D'ailleurs, c'était pas son objectif à court terme. Il n'était pas vraiment prêt. En tout cas, il en était pas sûr. Mais bon, je pense que laisser l'équipe première du PSV Eindhoven laisser la possibilité de la prendre, c'était compliqué pour lui. Donc, il a pris en main ce challenge. Et tu parlais à l'instant, et tu as raison de rappeler que le PSV Eindhoven n'a fini qu'à 2 points de l'Ajax Amsterdam. Et par exemple, c'était sur ce que j'étais sur le point de tweeter quand même pour faire une petite comparaison. Raison avec Feyenoord qui a quand même éliminé l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Ouais. Le Feyenoord a fini à 10 points du PSV Eindhoven à l'Eredivisie.
Donc
c'est pour
peur,
te
là.
Dire. Non, mais c'est pas pour te faire peur, Steve, mais c'est juste pour dire que le PSV Eindhoven, c'est quand même le club qui est le plus proche de l'Ajax Amsterdam. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si je dois les comparer, je les compare avec l'Ajax aujourd'hui. Je les compare pas avec Feyenoord qui a éliminé Marseille ou le Vitesse Arnhem qui a posé quelques difficultés à Rennes l'année d'avant. Tu vois, c'est un gros club néerlandais là. Après, là, c'est du lourd. Après, c'est un club qui peut être susceptible de perdre ses meilleurs éléments, mais c'est pas encore le cas. Tu vois, t'as Cody Gakpo, qui est le meilleur joueur de cette équipe, qui est encore là, qui partira peut-être en fin de mercato, mais pour l'instant, il est là. Il va aider son équipe pour le tour préliminaire. Sangaré, l'ancien Toulousain aussi. Donc bon, c'est quand même une équipe sympa.
On savait que le tirage allait, quoi qu'il arrive, être difficile, puisque les autres adversaires possibles, c'était le Benfica Lisbonne, qui a fait quand même une très bonne saison l'an passé. Il y avait les Glasgow Rangers aussi, qui ont brillé en Coupe d'Europe. Et puis le vainqueur de la confrontation entre le Fenerbahçe et le Dynamo Kiev. Donc, on rappelle également que si Monaco est éliminé, Monaco sera reversé en phase de poule de Ligue Europa. Kevin, parle-nous un petit peu, effectivement, de l'effectif. On l'a dit, Luc de Jong est de retour, lui qui était passé par le Barça et le FC Séville, le grand attaquant, évidemment, néerlandais, qui sera capitaine, d'ailleurs, je crois, au PSV. Cette saison, et puis un gardien qu'on connaît bien, Walter Benitez, parti libre de Nice et qui va garder les buts du PSV désormais.
Ouais, ben je viens de voir un interview d'un des cadres de l'Ajax qui disait que l'objectif c'est bien sûr de jouer la Ligue des Champions, que l'AS Monaco c'est un gros club, le PSV le sait, ils ne seront pas favoris, mais bon, en tant qu'outsider ça leur convient très bien. Comme tu dis, il y avait de toute façon de très belles équipes. L'an dernier ils ont été éliminés vraiment sur un coup du sort contre le Benfica Lisbonne qui finit derrière en quart de finale. Donc ça va pas se jouer à grand chose, mais au niveau de l'effectif, c'est vrai qu'ils ont tapé un gros coup, hein, d'aller chercher un des meilleurs gardiens du championnat de France. Pour eux c'est pas rien. C'est un bel investissement d'aller chercher Luc de Jong, qui est un ancien. Alors on sait, Luc de Jong, on l'a vu au Barça, vous le connaissez. Ah, c'est pas celui qui va à 1000 à l'heure, par contre, de la tête. C'est un joueur exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs dans le domaine aérien. Ils ont été chercher aussi un petit gars que certains ont peut-être découvert face à l'OM, qui est Gustil, qui est un joueur qui est revenu de Russie, qui avait été prêté l'an dernier à Feyenoord et qui a signé là au PSV Eindhoven. Et puis voilà, ils ont toujours Dinoni Madueke. Malheureusement, ils ont le français Boscagli qui a une grave blessure au genou. Mais c'est une équipe vraiment qui est très cohérente. Et je l'ai dit hier sur rmcsport.fr, pour moi, allez, c'est du 60-40 pour l'AS Monaco, mais j'ai même dit 58-42 parce que vraiment, il y a moyen que l'AS Monaco soit embêté, notamment au match retour.
Et Kevin, et le petit Simon, ce qui arrive du PSG, il va avoir des minutes?
Ouais, je pense qu'il va avoir des minutes. Je pense pas qu'il sera titulaire, même si là, au dernier match amical face à Villarreal, il a été titulaire. Mais t'as raison d'en parler, Stephen, parce que c'est pas un choix anodin quand même pour Xavi Simons, à qui avec qui on pensait qu'il allait avoir quand même du temps de jeu au Paris Saint-Germain, mais il choisit le PSV Eindhoven parce qu'il sait, quand même l'importance de ce club et il sait que dans sa carrière, ça peut l'aider à passer un cap. Je pense en effet qu'il va prendre le rôle à terme qui est laissé par Mario Götze, l'Allemand, qui est retourné en Allemagne, mais je pense, oui, qu'on va le voir sûrement en fin de match contre l'AS Monaco.
Et d'ailleurs, Stephen, oui. Parce que ce qu'on retient malheureusement, c'était quoi qu'il arrive, ce qui allait se produire pour l'AS Monaco, il y aura ce match retour à l'extérieur parce qu'il y a le meeting Hercules qui se déroulera la semaine du 10 août. Donc c'est quand même compliqué d'aller chercher une qualif à l'extérieur. Et d'autant plus que la saison, le Ligue 1 n'aura pas démarré pour Monaco, ce sera le 2-3 août et puis le championnat reprend le 8.
Donc, alors, oui.
Que ça, c'est dur à gérer.
C'est dur à gérer, oui. On rappelle que l'année dernière, ils ont gagné à Eindhoven 2-1 quand même les Monégasques. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est que Monaco, elle a la même base que la saison dernière. Il n'y a pas eu d'énormes recrues pour l'instant. Ils ont pris Minamino, là, le japonais qui était à Liverpool, qui rentrait samedi en cours de jeu contre l'Inter, où ils ont fait deux partout.
Ils ont perdu Tchouaméni quand même.
Ils ont perdu Tchouaméni. Mais je veux dire, le 11 qui était aligné contre l'Inter samedi, c'est tous des garçons qui étaient là l'année dernière. Oui. Donc, et le coach Philippe Clément qui est toujours là. Donc je pense qu'il
gagne du temps. Quoi.
Ça gagne du temps. Mmh. Maintenant, tu as une pression. C'est-à-dire que dans 15 jours, il faut être prêt, mon grand. Si tu veux aller, parce qu'ils vont pas directement en Ligue des Champions s'ils gagnent ce match-là.
Il y a deux tours à passer,
mais ouais. Il faut être tout de suite prêt. Parce que ta saison après, c'est pas la même si t'es en Champions League ou si t'es en Ligue Europa. L'avantage quand c'est Monégasque, c'est qu'ils ont terminé la saison, on se rappelle, hein, de celle des dernières lignes droites en Ligue 1 qui a été fantastique de la part de Monaco.
Un but près, ils sont en Ligue des Champions,
exactement,
hein, deuxième place.
Et l'ossature, et ça a pas beaucoup bougé. Philippe Clément, qui est là depuis encore maintenant un peu plus de temps, a encore une intersaison, sa première intersaison avec Monaco pour remettre des choses en place. Moi, je les vois un petit peu en avance par rapport au PSV Eindhoven. Donc moi, j'ai envie d'y croire à cette équipe monégasque.
C'est ça. Ils sont un peu en avance. Et il y a quelque chose à noter, c'est que le point fort de l'AS Monaco, clairement cette année, j'en ai fait un avis tranché dans l'after il y a quelques jours, c'est l'attaque. Ils vont avoir une attaque incroyable quand même pour la Ligue 1. Ça va être quelque chose avec les recrues. Ils avaient déjà avec Ben Yedder et Voland de super joueurs. Derrière, ils prennent Mbolo. Il y a vraiment de la qualité. Hein. Il y a Boadu qui est remplaçant. Bref, ils ont beaucoup de talent. Ouais. Et le point faible du PSV Eindhoven, c'est la défense.
Ah bon, voilà.
Si Stephen, toi qui fais partie des paris RMC, je devais te donner un petit conseil, à mon avis, hein, les deux équipes qui marquent, il y a beaucoup de chance quand même.
Bon,
ouais, c'est cadeau, les deux équipes qui marquent.
Et puis on espère une qualif monégasque, évidemment. Merci Kevin, bonne soirée à toi, à bientôt dans l'after, évidemment. Salut, et puis on suivra de très près la suite de la préparation du PSV Eindhoven. On vous le disait, donc ce match pour Monaco, troisième tour préliminaire, aller le 2 ou le 3 août au Stade Louis II. Stephen, tu restes là, on est là jusqu'à 20h ce soir. Dans un instant, on file à Carcassonne, retrouver le druide
Carcassonne.
Cyril Guimard, avec l'accent c'est encore mieux, t'as raison, Valentin Jamin. On va se projeter sur la troisième semaine du Tour de France et puis on aura deux invités également dans l'Intégral Sport. Xavier Garbajosa, nouveau coach du Loup, qui a été présenté aujourd'hui, et puis Ninon Chapelle. On ira à Eugene en Oregon pour les championnats du monde d'athlétisme. Elle a terminé 11e du championnat de saut à la perche. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.